Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Comment va la gauche, ou plutôt, comment vont les gauches en Europe, avec d'un côté une social-démocratie acquise au social-libéralisme qui peine à se renouveler idéologiquement, et la gauche de la gauche, radicale, anti-austérité, mais qui bute sur la réalité de l'exercice du pouvoir. En France, les frondeurs du PS ronronnent, au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn à la tête du Labour repeint en rouge le vieux parti travailliste, tandis qu'en Grèce, Alexis Tsipras, le leader de Syriza, n'a pas trouvé une fois élu le fameux plan B. Comment va la gauche en Europe? Elle hésite, elle se cherche et elle doute. Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris. Vous êtes ce qu'on appelle un grand connaisseur des gauches européennes.
Il me paraît.
Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Gerasimos Moskonas, bonjour. Kalimera, kalispera.
Bonjour, Calimera.
Merci d'être en ligne d'Athènes où vous enseignez l'analyse politique comparée au département de sciences politiques et d'histoire de l'université Pantaleon, c'est à Athènes bien évidemment. Alors Marc Lazare, si je vous demande en quelques mots de me décrire l'état de la gauche en Europe, quels sont les mots qui vous viennent tout de suite à l'esprit?
Oh ben, certainement la crise, c'est pas neuf dans l'histoire de la gauche, notamment socialiste et social-démocrate. Elle est même caractérisée par des grandes phases d'avancée et des phases de recul, de doute, qui ont marqué son histoire, les années de l'entre-deux-guerres, les années 60-70, et puis maintenant une crise prolongée qui n'a fait que s'accentuer depuis 2008, et notamment depuis la crise financière et économique. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement, il y a de multiples interrogations sur son projet, sur son identité, sur la résolution des questions économiques et sociales, bien évidemment, et puis elle est défiée, cette gauche, par la droite, ce qui est normal dans la plupart des pays européens.
Et même par l'extrême droite.
Par l'extrême droite populiste, ça c'est sans doute, à mon sens, un des faits nouveaux de ces dernières années. Et puis, mais ça encore, on l'a souvent vu dans son histoire, sur sa gauche, sur son flanc gauche, peut-être une petite nuance tout de suite par rapport à votre introduction, non pas à la gauche de la gauche, mais à des gauches, si j'ose dire, car cet ensemble est très divers. Mais oui, c'est une situation difficile, et d'ailleurs, sur le plan électoral, elle est sans doute un de ses plus bas étiages de son histoire depuis l'après 1945.
Gerasimos Moskonas, même question, comment va la gauche, mais vu d'Athènes?
Vu d'Athènes, électoralement, elle va très très bien, mieux que jamais. Mais du point de vue politique, du point de vue programmatique, et disons la gauche comme force de transformation sociale, ça va plutôt mal, et surtout après la signature du troisième mémorandum, vraiment pour Tsipras, pour Syriza qui se trouve maintenant au pouvoir, ça serait très difficile.
Alors Marc Lazare, 28 pays en Europe, la gauche est minoritaire en Europe. Hein. J'ai compté, alors c'est toujours un peu compliqué de compter, j'ai compté plus ou moins 7 pays gouvernés à gauche, plus la Grèce, évidemment, sur 28, c'est pas beaucoup.
Non, d'une part, c'est pas beaucoup. Et puis, en plus, quand on dit gouverner par la gauche, c'est encore plus compliqué, parce que finalement, à part François Hollande et Manuel Valls actuellement, où le Parti Socialiste est un parti majoritaire seul au pouvoir, dans la plupart des cas où la gauche est au pouvoir, elle est en coalition et dans des situations parfois difficiles.
Alors, non seulement elle est en coalition, mais elle est souvent en appui.
Oui, sauf en Italie, avec Matteo Renzi et le Parti démocrate, qui est un parti un peu à part hein, dans le panorama de la social-démocratie européenne, quand bien même Matteo Renzi a fait adhérer le Parti démocrate au Parti socialiste européen. Elle est en coalition et c'est un de ses problèmes. C'est-à-dire, un de ses problèmes, c'est avec qui s'allier et pourquoi faire. Dans le cas allemand, par exemple, où le SPD, qui est le parti référence historiquement de toute la gauche européenne au 19e siècle, les socialistes de l'Europe entière allaient voir ce parti.
Hein. L'inventeur de la social-démocratie.
L'inventeur de la social-démocratie, un parti qui, avec le fameux congrès de Bad Godesberg, en 1959, a impacté, comme on dit de nos jours, a marqué tous les autres partis sociaux-démocrates. Le parti auquel on se réfère toujours, qui est encore le plus puissant, c'est un parti qui est en coalition avec la CDU-CSU en Allemagne et qui est dans une situation de dépendance d'Angela Merkel, et les sondages actuellement sont mauvais pour ce parti.
Alors ces coalitions que la gauche soutient, des coalitions avec des partis de droite, et l'usure historique, je dirais, de la social-démocratie a facilité la percée, en tout cas dans les pays du sud de l'Union européenne, de formations dites de gauche radicale comme Syriza en Grèce et Podemos en Espagne. Éclairage avec Maria Fonso.
Podemos, que l'on peut traduire par « nous pouvons », était encore inconnu il y a un an. Il se revendique du mouvement des indignés. Podemos émerge donc de la frustration, de l'agacement des Espagnols face à la montée du chômage, de la misère sociale et contre la politique d'austérité. Podemos s'appuie sur des cercles dans chaque quartier, dans chaque ville, à travers toute l'Espagne. Tout le monde peut s'exprimer et partager ses idées. Chaque séance commence par une collecte d'argent dans un souci d'autofinancement. Podemos n'acceptant pas de soutien des grandes entreprises ou du secteur financier. Cette façon d'agir différente qui implique les militants est particulièrement appréciée dans un pays où la corruption a largement sali l'image des hommes politiques de droite comme de gauche. Podemos est le parti espagnol le plus suivi sur les réseaux sociaux et il sait mettre à profit cette visibilité médiatique en s'y présentant par le biais de ses cercles, avec le slogan « Claro que Podemos » en français, « Il est clair que nous pouvons ». Voici un extrait à la gloire de Podemos où s'expriment les militants.
Nous tentons de construire un projet collectif. De quoi ont-ils peur ? Ils ont peur de vous.
Pour qu'il y ait un changement réel, pour qu'il y ait un changement profond.
Parce que le pouvoir n'a pas peur de la gauche, ni des idéologies. Il a peur du peuple, il a peur des gens.
Un gouvernement courageux, mais avec le peuple derrière. C'est exactement ce que nous essayons de construire.
Notre peuple, on ne le maltraite pas, on ne le vole pas, on ne dépouille pas nos aînés.
A nuestros mayores no se les estafa con las preferentes.
Alors que Podemos est né dans la rue, l'histoire de Syriza est tout autre. Syriza, née en 2013, est une coalition de gauche composée d'ex-communistes, de socialistes dissidents, d'écologistes. D'élection en élection, Syriza progresse en surfant sur le mécontentement des citoyens, tout comme Podemos. Pour les Grecs, il reste le parti qui limite les baisses des salaires, des pensions, des minima sociaux et qui s'oppose à la casse des services publics. Alexis Tsipras, le leader du parti, est aussi le premier chef de gouvernement européen issu de la gauche radicale. Malgré son revirement et son acceptation des conditions drastiques imposées par l'Union européenne, il reste une véritable alternative et pour les Grecs qui l'ont soutenu, un moindre mal. Alexis Tsipras, au soir des dernières élections législatives.
Tout le monde nous a pris pour cible, disant que nous n'étions pas avec le peuple. Nous sommes avec le peuple, nous sommes là. À partir de demain, on va relever nos manches et travailler dur pour soutenir les plus faibles. Nous voulons d'ici 4 ans avoir une Grèce plus forte et plus juste, avec un peuple fier et non pas dépendant.
Syriza en Grèce, un cas unique en Europe. Alexis Tsipras a été le premier, jusqu'alors le seul leader de la gauche radicale à prendre les rênes d'un pays. Gerasimos Moskonas, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'épopée de Syriza après l'adoption du troisième mémorandum européen? Un rêve avorté, la fin d'une illusion, une trahison?
Oh, je ne crois pas à l'idée de trahison, je n'ai jamais cru à l'idée de trahison, on le dit souvent. Et ce n'est pas une trahison, c'est un tournant vers le réalisme. Mais ce tournant vers le réalisme est très douloureux. Avoir un parti de gauche, de la gauche radicale en plus, mettre en œuvre, et ce parti-là aura à mettre en œuvre une politique d'austérité, quand même c'est dur à assumer. Mais je crois là qu'il ne faut pas seulement voir un tournant de Tsipras, mais il faut voir aussi le caractère conservateur, et quand je dis conservateur, pas en termes de gauche-droite, mais surtout en termes d'un système institutionnel qui ne change pas facilement. Et il faut voir donc le caractère conservateur de l'Union européenne qui, en grande partie, a imposé à la Grèce et donc à la Syriza cette politique-là.
Marc Lazare, ce que vient de nous dire Gerasimos Moskonas, c'est la gauche est minoritaire en Europe et Syriza, comme les partis de gauche radicale, souvent ont buté sur la réalité de l'exercice du pouvoir.
Alors l'expérience de Syriza, effectivement, est très intéressante parce que lorsque Syriza et notamment Tsipras a gagné en janvier de cette année les élections, il y a eu un immense espoir dans cette mouvance des gauches de la gauche et même parfois au sein de certains partis socialistes et sociodémocrates en pensant qu'il allait pouvoir renverser la table et que ça allait être un exemple à suivre. Ça a été par exemple la position de Jean-Luc Mélenchon en France. Or, on s'aperçoit d'une chose, c'est que effectivement l'Europe est un cadre extraordinairement contraignant, et plus encore la zone euro. Et ces gauches de la gauche qui sont très diverses, on y reviendra peut-être parce qu'il y a plusieurs sensibilités, sont en train de buter sur une question essentielle qui est: qu'est-ce qu'on fait de la zone euro? Et Tsipras l'a accepté, et a accepté, comme vient de le dire Hierasimos Moskonas, ses contraintes, et c'est très douloureux. D'ailleurs, ça a provoqué une scission au sein de Syriza. Podemos, pour le moment, alors que les élections d'Espagnol approchent, semble reconnaître le cadre de la zone euro après avoir hésité. Et en France, c'est très intéressant parce que le Front de Gauche, qui est constitué d'un côté du Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté du Parti communiste français puis d'autres petites formations, est en train de se déchirer sur cette question. Jean-Luc Mélenchon n'exclut pas l'hypothèse d'un plan B, c'est-à-dire de sortir de la zone euro, alors que le Parti communiste français vient de faire un rapport demandé à ses économistes qui explique que sortir de la zone euro serait une catastrophe. Et donc Pierre Laurent, le secrétaire du PCF, explique maintenant qu'en tout état de cause, il faudra rester dans la zone euro. Donc la question de l'euro divise ces gauches de la gauche.
Alors au-delà de l'appartenance ou non à la zone euro, à l'inverse de la droite, mais c'est évidemment plus facile pour elle, la gauche de la gauche a du mal à appréhender la mondialisation. Soit elle l'accepte et elle devient social-libérale, soit elle la refuse et elle bute encore une fois sur la réalité de l'exercice du pouvoir.
C'est aussi une autre question fondamentale, parce que c'est bien beau de se mettre dans une posture radicale, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est élu? Peut-être qu'une des hypothèses qu'on peut avancer, c'est de dire finalement cette gauche de la gauche est plus dans une posture morale. Elle est plus dans la dénonciation, et elle préfère en tout cas pour le moment même éviter la prise de responsabilité. Podemos a tranché, parce qu'aux élections municipales de cette année en Espagne, elle a fait des alliances pour exercer des responsabilités.
Succès d'ailleurs, avec puisque succès, la mairie de Madrid, voilà, la mairie de Barcelone sont pas des candidats de Podemos, mais non. Soutenus par Podemos.
Exactement. Et c'est l'autre question qui divise ces gauches de la gauche, au-delà de la question de la zone euro, c'est quel type d'alliance. Et là encore, le cas français de ce point de vue-là est assez emblématique. Alors, c'est pas le cas de la Grèce, parce que le PASOK a disparu de la carte politique, ou quasiment, mais dans le cas de la France, Jean-Luc Mélenchon et le Parti de Gauche disent pas question de s'allier et de faire des reports de voix éventuellement avec le Parti Socialiste, alors que le Parti Communiste Français, qui est un parti fondamentalement pour ce qu'il en reste d'élus, évidemment veut des alliances avec le Parti Socialiste. Et dans le cas italien, par exemple, il y a toute une agitation actuellement à gauche du Parti Démocrate, et cette même gauche qui est en train d'essayer de s'organiser est divisée sur la question de l'euro, et elle est divisée sur la question des alliances. Ça, c'est deux points absolument clés.
Alors, Pauline Schnapper, c'est tout de même en Grande-Bretagne que le social-libéralisme est allé jusqu'au bout de sa logique avec Tony Blair et la fameuse troisième voie. Ça démarre comment l'idée de la troisième voie ?
Alors, sur le plan national, ça démarre avec l'idée que le Parti travailliste est dans l'opposition depuis si longtemps qu'il faut qu'il se modernise sur le plan idéologique et sur le plan programmatique pour avoir une chance de revenir au pouvoir. Donc, il y a un aspect extrêmement pragmatique. Et puis, il y a l'effet de plus de 15 ans de gouvernement conservateur, et en particulier l'effet des politiques néolibérales menées par Margaret Thatcher dans les années 80, qui ont imposé une marque, enfin, très très forte jusqu'à aujourd'hui, et qui ont fait que le Parti travailliste traditionnel devait adapter son discours à cette nouvelle réalité s'il voulait se faire élire. Et donc le phénomène Blair dans les années 90 est issu de ces deux mouvements au Royaume-Uni.
Alors Tony Blair, c'est l'homme qui voulait plaire à la City. Est-ce qu'on peut être à gauche en séduisant, en étant adulé par la City ?
Oui, c'est un petit peu rapide de réduire Blair à l'homme qui voulait séduire la City. Je crois que la troisième voie en général, et Blair en particulier, vont bien au-delà de ça. Ce que vous voulez dire, je pense, c'est que Blair et le New Labour derrière lui ont l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'il y a un certain nombre de réalités à accepter. Et l'une d'elles, entre autres, c'est le poids des services financiers dans l'économie britannique. Et donc l'idée qu'on ne peut pas conduire le pays sans servir aussi ces intérêts-là. Alors après, on peut évidemment critiquer et se demander s'il n'a pas été trop loin dans cette acceptation de l'héritage thatcherien. Mais c'était l'idée qu'il fallait partir de la réalité et pas d'un idéal.
Alors, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, on peut dire qu'il s'est passé exactement la même chose en Allemagne avec le SPD et Gerhard Schröder. Marc Lazare.
Oui, même s'il y a pas mal de nuances.
Il y a des nuances, voilà, bien sûr.
Mais en gros, oui, à partir de ce qu'on a appelé la troisième voie, Tony Blair, et puis celui qui a représenté un peu l'élaboration intellectuelle, Anthony Giddens, mais que Tony Blair a utilisé, instrumentalisé, pris ce qui l'intéressait dans l'œuvre de Anthony Giddens. Oui, la plupart des partis socialistes et sociaux-démocrates se sont ralliés à ces grandes idées que Pauline Schnapper a résumées. Et par rapport à votre réflexion tout à l'heure sur la globalisation, en gros, cette gauche-là dit, ben, il faut accepter la globalisation. Elle a des aspects négatifs, mais il n'y a pas que des aspects négatifs. Il y a des aspects pleins d'opportunités, et c'est le rôle de la gauche de faire en sorte que les plus faibles puissent aussi profiter de cette opportunité. Alors que les gauches de la gauche, elles, refusent même cette idée et pensent que la globalisation n'est que négative, fondamentalement négative. Donc ça, c'est une ligne de clivage assez forte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, la troisième voie a épuisé une partie de ses potentialités, qui a un bilan à en dresser, me semble-t-il. Et c'est vrai que la petite allusion que vous faisiez à Tony Blair et la City, c'est vrai que l'évolution de Tony Blair, après qu'il eut lâché la direction de Labour Party, c'est un homme qui quand même fait des conférences et parle, non pas comme nous, gratuitement pour le service public, mais qui vous demanderait, cher ami, s'il venait ici...
Ah mais j'aurais pas les moyens d'inviter, voilà, ça c'est clair.
Des sommes astronomiques pour parler 5 minutes, et que Gerhard Schröder est parti travailler pour les Russes,
pour Gazprom,
évidemment ça n'a pas arrangé, disons, la réputation de ces deux leaders. Mais on est tous historiens, d'une certaine façon, on sait qu'il faut contextualiser les choses, et au moment où il lance cela, il n'est pas un homme uniquement intéressé par l'argent, même s'il n'est pas que ça maintenant, mais c'est un peu l'image négative qu'il traîne. Hein.
Alors, la conséquence de Tony Blair et de Gerhard Schröder, c'est quand même beaucoup de précarité pour les salariés, des salaires parfois dérisoires, hein, les mini-jobs d'un côté, les jobs à zéro emploi, comment ça s'appelle en Grande-Bretagne ?
Zero-hour contract.
Qu'on peut traduire en français par...
Les contrats zéro heure.
Voilà. Vous avez un contrat en CDI à durée indéterminée, mais vous pouvez ne pas travailler dans votre semaine, ce qui est quand même assez phénoménal, Pauline Schnapper.
Oui, ce qu'on a vu apparaître sous les travaillistes, c'est effectivement ce phénomène des travailleurs pauvres, hein, les working poor, qui a été bien plus fort et qui est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'il n'était il y a 10 ans, donc il faut quand même relativiser. Mais c'est vrai que ça a commencé à ce moment-là. Cela dit, il ne faut pas oublier que les années Blair, ce sont aussi des années d'investissement massif dans les services publics. Donc on ne peut pas réduire le phénomène Blair et la social-démocratie britannique à ce moment-là à simplement la City, comme on disait tout à l'heure, et les contrats à zéro heure. Il y a aussi une réduction très nette de la pauvreté, notamment parmi les enfants, et un investissement massif dans l'éducation et la santé notamment, qui est aujourd'hui en train d'être, alors là aussi il faut nuancer, mais enfin fortement réduit, disons, par les coupes budgétaires du gouvernement actuel.
Damon Marc Lazare, est-ce qu'on peut dire que Tony Blair a trahi la gauche ou pas?
Ah non, moi je crois pas. Ça c'est une vision, je crois, vraiment très simpliste. Non, moi je considère que tout le débat qu'il y a eu dans les années 90, c'est un débat aussi important dans l'histoire de la social-démocratie que le débat sur ce qu'on appelait le révisionnisme autour de Serge Bernstein, de Karl Kautsky et d'Edouard Bernstein. C'est-à-dire un grand débat sur qu'est-ce qu'on fait, comment la gauche doit s'adapter aux transformations du capitalisme, aux évolutions de la société. C'est un débat qui restera dans l'histoire comme un des plus importants de la social-démocratie européenne. Je sais que mon ami Moskonos n'est pas d'accord avec ça.
Mais justement, on va lui demander. Gerasimos Moskonos, est-ce qu'on peut dire encore dans un raccourci radiophonique que Syriza est la fille illégitime du social-libéralisme, c'est-à-dire dans la version grecque du PASOK?
Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Madame Schnapper que le phénomène Blair et le phénomène du nouveau parti travailliste c'était un phénomène très composite. Donc, il ne faut pas parler de trahison. Au contraire, je dirais que c'était pendant les années 90, avec cette expérience de la troisième voie, on avait une tentative de rénovation de la gauche en Europe, de la gauche social-démocrate, qui était extraordinaire. Mais je crois que la troisième voie, Tony Blair lui-même, on négligeait criminellement, je dirais, le contrôle de la régulation de la mondialisation. Et donc, cette troisième voie, pratiquement, a été épuisée, ou pour dire les choses de manière plus cynique, a été balayée par la crise de 2008. Là, c'était le moment où cette gauche a échoué, précisément à cause de la globalisation. Et on a une situation actuellement qui concerne l'ensemble des gauches, la social-démocratie, aussi bien que la gauche radicale ou la gauche dans son ensemble, est prise en tenaille entre, d'un côté, les contraintes de la mondialisation et de l'autre, les contraintes et les règles de l'Union européenne. Donc, on a cette situation-là et l'expérience Blair était une expérience très composite, mais en même temps, a amené la gauche dans une voie qu'on peut dire après coup, sans perspective réelle.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps d'un point sur l'actualité avant de retrouver nos invités. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Comment va la gauche, ou plutôt, comment vont les gauches en Europe? Avec d'un côté une social-démocratie acquise au social-libéralisme qui peine à se renouveler idéologiquement, et la gauche de la gauche, radicale, anti-austérité, mais qui bute sur la réalité de l'exercice du pouvoir. En France, les fondeurs du PS ronronnent, au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn à la tête du Labour, repeint en rouge le vieux parti travailliste, tandis qu'en Grèce, Alexis Tsipras, le leader de Syriza, n'a pas trouvé, une fois élu, le fameux plan B. Comment va la gauche en Europe? Elle hésite, elle se cherche et elle doute. Je vous représente rapidement nos invités. Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris. Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et Gerasimos Moshkonas, professeur d'analyse politique comparé au département de sciences politiques et d'histoire de l'Université Panthéon. Il est en ligne d'Athènes. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Dans l'univers de la gauche européenne, il y a un nom qui a fait irruption. Ça se passe en Grande-Bretagne. Personne ne l'avait vraiment vu venir. Il s'appelle Jeremy Corbyn. Il a été triomphalement élu à la tête du vieux parti de travailler sur des positions très à gauche.
Exactement. Alors, Jeremy Corbyn, c'est en fait une espèce de frondeur, on pourrait dire, à l'intérieur du Labour, qui n'a jamais effectivement défrayé la chronique et puis qui... a été poussé un petit peu à se présenter à la tête du Parti travailliste et qui a engrangé une victoire assez spectaculaire. Et aussi spectaculaire parce que son électorat était fait de nombreux jeunes. Donc ce personnage plutôt...
âgé.
Âgé, exactement. Je crois qu'il est sexagénaire ou septuagénaire déjà, comme le dit le Financial Times. Par son image d'authenticité, il a réussi à séduire beaucoup de jeunes dans l'électorat.
Alors, celui du Observer explique qu'il a séduit, mais que le plus dur pour lui reste à faire.
C'est ça. Alors, il a, en fait, son arrivée à la tête du Parti travailliste, qui avait été déjà très contestée, notamment par Tony Blair, qui avait mis en garde contre ça, ne laisse pas vraiment élogieux les commentateurs qui trouvent... Alors, The Economist, par exemple, dit « en arrière toute camarade », c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est un retour à l'Antiquité, pratiquement, du Parti travailliste. On dénonce sa politique économique qui entrevoit la possibilité de revenir à des nationalisations de certains secteurs de l'économie. On lui reproche aussi d'être anti-américain, d'être anti-OTAN, d'être anti-Union européenne. Bref, on lui reproche beaucoup de positions qui ne sont plus les positions du Labour depuis plusieurs décennies.
Et des observateurs comme les autres journaux britanniques s'interrogent sur les capacités de Jeremy Corbyn, non pas à gagner la tête du parti, ça c'est fait, mais à gagner les élections dans un avenir plus ou moins proche.
C'est ça. Ça c'est un des points majeurs. C'est que ces idées à Jeremy Corbyn vont quand même à contre-courant du groupe parlementaire des travaillistes. Et là, pour les prochaines élections qui ne se tiendront qu'en 2020, tout le monde reste dubitatif.
Daniel Renon, Courrier International, l'hebdo et le site courrierinternational.com. Pauline Schnapper, il vous laisse dubitatif, Jeremy Corbyn?
Bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Effectivement, si on regarde ses chances de remporter les prochaines élections et donc de ramener le Parti travailliste au pouvoir, oui, je suis dubitative et
c'est pas
la seule. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même très, très peu vraisemblable. Maintenant, le phénomène Corbyn est intéressant lui-même parce qu'il nous donne des indications sur l'évolution du Parti travailliste.
Mais comment expliquer son succès?
Alors, je crois que il y a une part de son succès qui s'explique par la volonté de tourner la page des années Blair, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que autant nous, de l'extérieur, on voit quand même les succès des années Blair, les victoires électorales, un bilan certainement mitigé, mais qui reste quand même dans l'ensemble plutôt positif, autant au sein de son parti, les années Blair ont laissé un peu un goût amer, notamment à cause, évidemment, de la guerre en Irak. Et puis aussi, sur le plan interne au parti, Blair est associé à une période extrêmement centralisatrice de contrôle des débats au sein du parti, qui ont été aussi, finalement, sur le long terme, mal perçus. Et donc, Corbyn arrive avec cette idée que on va ouvrir les portes du parti, mais surtout, on va ouvrir le dialogue, on va laisser parler les gens, les militants, beaucoup plus qu'ils ne pouvaient le faire pendant les années
Blair. Et ça, en tout cas, ça a marché.
Ça a marché.
Il y a eu un grand succès, plein de jeunes se sont mobilisés.
Alors, oui, il y a eu au total 60% donc des électeurs qui ont voté pour lui, mais attention, parmi ces électeurs, les deux tiers sont des adhérents très récents, voire des sympathisants, simplement. Un peu comme pour la primaire au Parti Socialiste Français, on a ouvert la porte au vote de sympathisants, et il s'avère que ce sont plutôt des sympathisants de la gauche radicale, qui ont profité de cette aubaine pour voter pour quelqu'un qui ne représente pas forcément, on l'a dit il y a un instant, la majorité des députés et des élus, d'une façon générale.
J'ai lu que le Parti travailliste britannique avait vu grimper ce nombre d'adhésions de 50 000, ce qui est considérable.
Il y a eu 600 000 votants pour cette élection.
Et 50 000 nouvelles adhésions, semble-t-il.
Voilà, mais ce qui nous importe ici, pour, si vous voulez, pour l'élection de Corbyn, c'est ce nombre de votants qui a été multiplié par 2 ou 3 par rapport aux chiffres habituels. Et donc l'élection de Corbyn est à la fois, est surprenante, mais s'explique finalement par ça, c'est-à-dire à la fois la volonté de tourner la page de Blair et du New Labour et cet afflux de nouveaux adhérents au sens et sympathisants.
Alors Marc Lazare, vous qui avez une vue historique sur les gauches européennes, pour tenir à la tête du parti et éventuellement gagner les élections en Grande-Bretagne, elles seront en 2020, Jeremy Corbyn va devoir adoucir son discours, c'est une nécessité, comment
j'ai du mal à prévoir le futur.
Même si le passé est parfois imprévisible.
Je crois que Pauline Stamper pourrait nous dire qu'effectivement il a commencé à le faire. Remarquons aussi que Podemos, par exemple, a beaucoup modéré. Et si on prend le cas espagnol, c'est intéressant de voir que Podemos, qui au départ était dans une position très très radicale, très rupture d'ailleurs, Podemos ne se situait pas sur le clivage gauche-droite, hein, il se situait sur le clivage peuple contre la caste, une expression qui est d'ailleurs née en Italie ces dernières années et qui était passée en Espagne.
Avec le mouvement 5 étoiles.
Exactement.
Qu'on ne peut pas évidemment considérer comme étant un mouvement de
la
gauche.
Non, qui ne peut pas être classé à gauche, mais qui est très intéressant par ailleurs comme phénomène populiste qui est ni à gauche ni à droite. Et Podemos maintenant s'est replacé sur le clivage gauche-droite, envisagerait éventuellement des alliances avec le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Alors effectivement, c'est très intéressant le cas de Corbyn, ça a été rappelé, c'est des primaires ouvertes, mais quand on regarde le ratio, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de votants dans le cas de Labour pour la primaire où Corbyn a gagné, et le nombre d'électeurs, si on fait la comparaison avec les primaires du Parti Démocrate que Matteo Renzi a gagné, ou celles de François Hollande, ou en tout cas qui ont permis la candidature de François Hollande à l'élection présidentielle, c'est le plus bas pourcentage de votants du Labour par rapport aux électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une minorité très radicale, très importante, hein, 600 000 votants, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que le rapport est très faible par rapport à l'électorat et on peut penser...
C'est plus ou moins 1% des Britanniques.
Oui, mais surtout quand on... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, j'avais fait le calcul, mais c'est en tout cas ce que j'avais constaté, que c'était le pourcentage le plus faible par rapport à 2 élections comparables, c'est-à-dire la désignation de Matteo Renzi comme secrétaire du Parti démocrate en Italie et, bon, c'est un peu différent, mais la désignation de François Hollande comme candidat à la présidentielle. Et évidemment, quand vous avez un écart pareil entre l'électorat pour les primaires et l'électorat global du Labour Party, vous pouvez penser, ce qui a été dit par Pauline Schnapper, que c'est la minorité la plus activiste, qui ne représente peut-être pas la majorité potentielle des électeurs.
Ce qui est intéressant dans le cas de l'élection de Jeremy Corbyn, dans l'histoire de Podemos et aussi dans celle de Syriza, c'est que dans tous les cas de figure, ce sont des réappropriations par un plus grand nombre, je n'irai pas jusqu'à dire le peuple, mais en tout cas un plus grand nombre de citoyens, d'un discours politique un peu cloisonné et cadenassé par les partis politiques traditionnels.
Alors ça aussi c'est une question intéressante parce que dans cette gauche de la gauche, d'après moi, il y a deux grandes sensibilités. Une plus traditionnelle qui consiste à dire retour au passé, les nationalisations, une plus large redistribution sociale, etc. Et puis une autre que j'appelle moi plus mouvementiste, plus ouvert justement à ces principes de démocratie. Moi j'ai l'impression que Corbyn essaye de se situer au croisement parce qu'il est très attentif aux mails envoyés, à une forme de démocratie participative. Donc on peut pas le classer uniquement dans la première catégorie. Mais ce que vous dites est tout à fait juste, Daniel, parce que c'est les grands défis, un des grands défis jetés au Parti Socialiste et Social-Démocrate, c'est-à-dire quelle forme de politique fait-on ? Quel type de rapport à la politique ? Et il y a, dans une partie de la gauche, l'exigence de plus de participation démocratique que chevauche une partie de cette gauche de la gauche, en disant, voilà, il faut être plus réactif, il faut pas obligatoirement avoir la forme parti. C'est un des grands défis posé au Parti Socialiste et aux Sociaux-Démocrates, mais à tous les partis de gouvernement. Moi, d'après moi, c'est à tous les partis de gouvernement. C'est pas simplement à ceux de la gauche.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, comment va la gauche en Europe ? Elle hésite, elle se cherche et elle doute. Nous sommes avec Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris, avec Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle, et avec Gerasimos Mochonas, professeur d'analyse politique à l'université d'histoire de l'université Panthéon. Il est en ligne d'Athènes. Jérémy Corbyn, Pauline Schnapper, il va revivifier, réinventer la social-démocratie ? Je vous levez les yeux au ciel.
Je serais bien incapable de vous répondre. En prenant un petit peu de recul, moi, personnellement, et comme beaucoup de gens, j'ai un peu de doute sur la durée, si vous voulez, du mandat de Corbyn. Je ne suis pas sûre qu'il reste très très longtemps à la tête du Parti travailliste, ni qu'il ait véritablement la possibilité de renouveler complètement la social-démocratie. Alors, il est évidemment trop tôt pour le dire, mais il y a deux échéances très importantes à relativement court terme dans lesquelles cette capacité va être mise à l'épreuve. En mai prochain, il y a des élections locales, des élections à Londres et surtout des élections en Écosse et au Pays de Galles. Donc là, on va voir si Corbyn réussit à améliorer les scores ou pas. Un test tout bête, mais qui dans tout parti qui aspire au gouvernement.
Et en Écosse, c'est un vrai défi, car sur les 57, je dis ça de tête, députés que l'Écosse envoie au Parlement britannique, à la Chambre des communes, je crois que je me souviens qu'il y a un seul député travailliste.
Le parti travailliste, qui était le grand parti dominant en Écosse, a subi une déroute totale, effectivement, en mai dernier, accentuée par le mode de scrutin ultra-majoritaire, au profit donc des indépendantistes écossais, SNP, qui, sur le plan idéologique, se positionne comme étant au centre-gauche, donc en compétition directe avec les travaillistes. Et donc, la première question qui se pose à Corbyn, c'est est-ce qu'il va réussir à regagner au moins partiellement des sièges, cette fois au Parlement écossais, hein, c'est différent. Mais en tout cas, des voix, disons, à reprendre quelques voix au SNP. S'il échoue au printemps 2016, il sera déjà fragilisé. Et puis là, l'étape suivante, qui pourrait venir peu de temps après, c'est le référendum sur l'Europe.
Et là, évidemment, il a historiquement des positions plutôt anti-européennes. Il a déjà fait un peu évoluer son discours. On va y revenir dans un deuxième temps. Gerasimos Mochonas, Alexis Tsipras, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir le nouveau social-démocrate ?
Le programme économique d'Alexis Tsipras, avant les élections de janvier, je ne parle pas des dernières élections, c'était déjà dans un programme social-démocrate. Je ne parle pas du parti en général, mais je parle très spécifiquement du programme économique de Syriza. Il était un programme social-démocrate. Aujourd'hui, il a été obligé d'accepter l'austérité, donc il est sans doute dans cette voie-là. En ce qui concerne la structure du parti, l'idéologie du parti, etc., là, on a un phénomène bien plus complexe. Mais de toute façon, je crois que Podemos, Syriza ou Corbyn font partie d'un même mouvement de recherche de nouveaux horizons pour la gauche. Ça, c'est sûr et certain, je crois. Et si la gauche du Parti travailliste, historiquement, a été, concernant ses performances électorales, c'était une catastrophe, néanmoins, il y a une recherche de nouveaux horizons, il y a une sorte de recherche de réinvention de la social-démocratie d'un côté et de réinvention de la gauche radicale de l'autre. Et là, il y a une voie traditionnelle, il y a aussi une voie plus moderne.
Marc Lazare, on sent bien qu'il y a un appel du pied des sociodémocrates auprès d'Alexis Tsipras de dire bah, rejoignez-nous, puisque finalement la politique que vous allez mener, elle est assez proche de celle que l'on mène nous.
Bah, c'est une des grandes caractéristiques de la social-démocratie, ça, dans son histoire, justement, qu'on retrouve à l'œuvre. C'est-à-dire que quand elle est contestée, elle s'affronte parfois à cette gauche, mais elle a aussi une capacité, elle avait une capacité d'absorption. C'est le cas, par exemple, si vous prenez les années 60-70, où il y avait toute une ébullition à gauche de la social-démocratie, en particulier en Allemagne, au sein même des organisations de jeunesse des sociaux-démocrates allemands, qu'on appelle les Jusos, mais aussi à l'extérieur. Et la social-démocratie avait cette capacité d'absorber, de retravailler ce qui était, venait de sa gauche et de le proposer en politique. Est-ce qu'elle aura cette capacité cette fois-ci? C'est une question posée. Mais je partage de ce point de vue-là l'analyse de Gerasimos Moscona, c'est-à-dire qu'il y a des banderies qui sont posées actuellement sur le flanc gauche de la social-démocratie, par Podemos, par Syriza, par Corbyn. On peut penser que parfois...
Par les frondeurs en France, les frondeurs du PS.
Peut-être par les frondeurs, peut-être d'une certaine façon par le front de gauche, par les Verts, etc. Bon, on peut avoir on peut dire, c'est souvent des recettes du passé, c'est peut-être des recettes de la social-démocratie des années 60-70, quand la situation économique et sociale, la conjoncture économique et sociale était tout à fait différente. Mais ça, c'est un vrai défi pour la social-démocratie classique, les partis de gauche réformistes classiques. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut inventer comme nouveau récit, comme nouveau projet? Et là, il y a un contraste très fort entre cette ébullition, en quelque sorte, sur la gauche, l'activité de nombreux think tanks, très importante en Europe. Il y a plein de think tanks, notamment en Angleterre, Policy Network, par exemple, qui était proche de Tony Blair, mais qui fait une série de propositions.
On va dire en France, c'est des laboratoires de réflexion.
Des laboratoires de réflexion. Bon, de plus en plus, si j'ose dire en français, on emploie cette expression, mais vous avez raison de la traduire. Et une très grande difficulté, en revanche, de ces propres partis, le Parti Socialiste en France, le SPD en Allemagne, le Parti Suédois, il ne faut jamais oublier le Parti Suédois, qui a toujours une très grande influence.
Une grande influence historique.
Bah, historique, bien sûr. Assimiler, à intégrer tout ce qui est en train de s'élaborer dans ces laboratoires d'idées par rapport aux défis de la gauche, par rapport aux défis de la droite et par rapport aux défis des populistes.
Mais la vraie question quand même pour la social-démocratie, c'est quel peut être l'espace de cette social-démocratie quand il y a plus de grains à moudre et que l'État-providence est quand même en grande difficulté. Gerasimos Moscona, vous aviez peut-être...
Un petit mot sur ce que vient de dire Marc Lazare. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Je voudrais ajouter un petit mot. Oui, la social-démocratie historique a montré une extraordinaire, je dirais, capacité d'adaptation, de renouvellement et d'assimilation de gauche en Europe, ou une partie de la gauche radicale en Europe. Ce n'est pas la même situation aujourd'hui à cause des contraintes liées à la mondialisation et à cause des contraintes liées à l'Union européenne. Je crois qu'on est passé d'une période de grande capacité stratégique et d'adaptation et donc de grande flexibilité à une période de rigidité. Cela crée un problème pour la social-démocratie et je dirais pour tous les grands partis gouvernementaux. Leur capacité d'adaptation et d'assimilation est devenue bien moindre. Il faut tenir compte de ça.
Marc Lazare, vous avez envie de réagir sur cet espace de la social-démocratie quand il y a plus de grains à moudre et que l'État-providence est un peu en difficulté.
Réagir? Oui, c'est la grande question qui est posée actuellement à ce qu'on appelle la social-démocratie au parti socialiste. Je suis entièrement d'accord. Alors, Gerasimos dit contrainte globalisation, contrainte Europe. La question, c'est de savoir est-ce que la globalisation de l'Europe ne fournisse pas quand même des opportunités et dans ce cas-là, lesquelles. Et la grande question pour la social-démocratie, c'est de savoir si elle est encore dans la tradition social-démocrate ou si elle doit se projeter vers un ailleurs. Et la réponse de Tony Blair des années 90, c'était il faut se projeter vers un ailleurs. Et c'est ça la question qui déchire. Alors là, à l'intérieur des partis socialistes sociaux-démocrates, je vais être très simple, parce que je vois aussi que Pauline Schnapper veut intervenir. Est-ce que c'est la position Corbyn, c'est-à-dire renouvellement de la tradition social-démocrate, ou est-ce que c'est la posture Matteo Renzi en Italie? On largue les amarres et on va vers autre chose.
Pauline Schnapper.
Oui, pour aller dans le même sens, je trouve que ce qui est très frappant chez Corbyn, c'est combien il a une vision très très étroite, très anglo-anglaise, si je puis dire, de l'avenir de la social-démocratie. C'est-à-dire qu'il a très peu de choses à dire sur la mondialisation, sur l'Europe, quand il parle de nationaliser, mais avec quel argent, quand il parle, et même de des grandes questions internationales comme le réchauffement climatique, quand il parle de rouvrir des mines de charbon, je veux dire, les bras vous en tombent, quoi, aujourd'hui. Et il y a une espèce de décalage entre un discours qui encore très ancré dans les années 60-70, du temps où les dépenses publiques étaient très importantes, et la réalité du monde d'aujourd'hui.
Alors effectivement, on l'a abordé à plusieurs moments, une des grandes divergences dans la gauche, c'est la perception de l'Europe. Est-ce qu'on fait avec l'Europe ou est-ce qu'on sort de l'Europe? Il y a des tentations. Alors il y a dans toute une série de nuances, et Syriza est un bon exemple, dans la gauche radicale, de dire il faut sortir de l'Europe. C'est un peu ce que disait Jeremy Corbyn, en tout cas c'est ce qu'il a dit avant d'être élu. C'est quand même une très grande divergence. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe quand on est à gauche, Marc Lazare?
Alors là, c'est effectivement une question qui déchire les gauches de la gauche, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une question qui trouble, pour ne pas dire qui divise aussi les partis socialistes et sociaux-démocrates. Ça, c'est évident.
Est-ce qu'il faut... Comme le Parti Socialiste en France.
Comme le Parti Socialiste en France. D'ailleurs, là encore, l'histoire nous éclaire. Et rappelez-vous qu'à peine François Mitterrand élu à la direction du Parti Socialiste en 1971, enfin rappelez-vous, les jeunes auditeurs s'en rappellent pas du tout, évidemment, mais lorsque François Mitterrand est élu à la tête, prend la tête du Parti
Congrès
Socialiste,
d'Épinay.
Le fameux Congrès d'Épinay, la première question qu'il a affrontée, il met sa démission en jeu, c'est la question de l'Europe, puisqu'une partie des socialistes, notamment emmenés par Jean-Pierre Chevènement, déjà, sont pour taper sur l'Europe, dénoncer l'Europe allemande, hein, germano-américaine, comme disait Jean-Pierre Chevènement. Cette question est un fil rouge. Et oui, c'est un des grands problèmes, et encore plus compliqué dans le cadre de la zone euro. Encore plus compliqué, parce que, alors ça, je crois que, moi, je l'analyse comme ça, je ne sais pas ce qu'en pense Moscovitz, c'est que Tsipras s'est heurté aussi au fait qu'une majorité des Grecs voulaient rester dans la zone euro, y compris ceux qui ont voté pour lui, me semble-t-il. Donc là, ça limite en quelque sorte les marges de manœuvre, et ça suppose que la gauche définisse véritablement son projet européen, et ça a des tas de conséquences, parce qu'on peut penser qu'une partie de la gauche pro-européenne est plus proche d'une partie de la droite pro-européenne que de la gauche anti-européenne. Donc là, on a des...
Et la gauche anti-européenne, elle n'est pas si loin que ça de la droite extrême anti-européenne, elle aussi.
En France, en tout cas, c'est quasiment... Ça a été théorisé par un économiste, hein, Jacques Sapir, qui a proposé une vaste alliance allant jusqu'au Front National contre l'euro, alors qu'il était jusqu'ici considéré comme un proche de Jean-Luc Mélenchon.
Syriza, c'est vraiment très très intéressant. On est au cœur des contradictions, hein, et les Grecs sont au cœur de cette contradiction. À la fois, ils voulaient évidemment rejeter l'austérité, on peut les comprendre, mais en même temps, rester dans l'Europe. On est au cœur des contradictions des citoyens de gauche en Grèce.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tout d'abord, je suis d'accord avec Marc Lazare et je crois que la question de l'Europe et notamment la question de l'eurozone va constituer une division stratégique au sein de la gauche radicale européenne aujourd'hui. Cette division stratégique moderne, tout à fait moderne, qui va déchirer, qui déchire déjà et qui va déchirer davantage dans l'avenir la gauche radicale. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance-là passe ou commence à passer au sein de la social-démocratie classique. L'atmosphère pro-européenne au sein de la social-démocratie classique est en train de changer. Concernant Syriza précisément, je crois que Syriza est un exemple idéotypique, je dirais, de la gauche radicale européenne. On a trouvé là ces deux tendances, la tendance de rester dans l'euro, qui est une tendance majoritaire de la population grecque, même très majoritaire, et une tendance minoritaire, sortir de la zone euro, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre les politiques de gauche au sein de la zone euro. Cette tendance-là, donc, a été, on l'a vu en Grèce. Et il y a un aspect là que je dois souligner. Il y a les analyses des économistes, les économistes pro-euro, les économistes anti-euro. Mais les populations portent une autre mémoire, une mémoire historique, et donc considèrent la participation ou pas à la zone euro et à l'Union européenne plus généralement comme un phénomène très très composite, avec des aspects politiques et des aspects géopolitiques très importants. C'est que les économistes de deux côtés n'arrivent pas à comprendre.
Alors, Marc Lazare, dans l'actualité politique des gauches européennes, il y a un cas très intéressant, c'est le cas portugais. Il y a eu des élections il y a quelques semaines au Portugal. Je résume en quelques mots. La droite est arrivée en tête, mais elle n'arrive pas à former un gouvernement. Il va peut-être y avoir une alliance originale entre le Parti Socialiste Portugais, vraiment le Parti Social-Démocrate au Portugal, le Bloc de Gauche, qui est en gros un Syriza portugais, hein. Je nuance un peu, peut-être on peut faire plus subtil. Et puis les communistes dont on n'a pas parlé, mais effectivement une des caractéristiques de la gauche en Europe, c'est évidemment partout le déclin des partis communistes. Et là, ce serait, si il y avait un gouvernement avec le PSP, le Bloc de Esquerda et les communistes portugais, ce serait du jamais vu en Europe.
Et du jamais vu au Portugal, où depuis la révolution des œillets, le Parti Socialiste est violemment affronté au plus staliniens des partis communistes, dirigés par Alvaro Cunhal, qui était un des dirigeants les plus staliniens, encore plus que le Parti communiste français, c'est-à-dire, c'est peu dire.
Plus stalinien que Staline à l'extrême.
Comme tel, quand même pas, mais enfin bon, en tout cas. Et alors, oui, ça, c'est un des autres problèmes qui ensuite se nuance selon les systèmes électoraux des différents pays européens. Bien évidemment, c'est pas la même chose en Grande-Bretagne, il y a un scrutin majoritaire à un tour. Mais c'est quelles alliances? Et quelles alliances?
Est-ce que les deux gauches peuvent s'unir?
Là, il faudrait prendre pays par pays. Apparemment, au Portugal, il y a cette hypothèse qui serait vraiment, effectivement, très neuve, très originale, très inédite, à laquelle, personnellement, je crois peu, et je pense que si jamais ils avaient un accord, je pense que ça exploserait en vol une fois qu'ils seraient au gouvernement. Mais bon, là, je fais des prédictions. En France, on peut commencer à en douter. C'est-à-dire que l'affrontement entre ces deux gauches, et quand on regarde vraiment toutes les enquêtes d'opinion, on voit que là, on a une sorte de composition, de structuration de deux électorats, et qui fait que même par rapport à des hypothèses au second tour, hein, de vote contre la droite ou pire, ou même contre le Front National, c'est pas sûr qu'on ait la fameuse alliance républicaine des gauches, hein, c'est même pas du tout sûr. Tellement le clivage est fort maintenant, tellement il est idéologique, tellement il est puissant dans les têtes.
Hein. Alors on a démarré cette émission en disant que les gauches en Europe étaient en crise, l'avenir des gauches en Europe...
d'un mot, bien évidemment. Bah, c'est un avenir sans doute assez sombre, mais je crois qu'il est assez sombre pour l'ensemble des partis de gouvernement, et que la grande question, c'est de savoir si des réponses peuvent être apportées par les responsables politiques à toutes les inquiétudes, à toutes les angoisses. Vous savez, il y a un mot de Durkheim que j'adore citer. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est avant tout d'entendre le cri de douleur et de souffrance. Et beaucoup de dirigeants sociaux-démocrates ont manifestement du mal à l'entendre.
Ben c'est un joli mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Pour écouter cette émission RFI.fr ou encore mieux les applis mobiles mais gratuites de RFI, plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, à Athènes, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Oh.